Combien de temps encore, Seigneur? Combien de temps? C'est par cette dernière plaie que le Seigneur fera céder le cœur de Pharaon et nous révélera le terrible prix de la liberté. Retenez bien ce que je vais dire. Le 10e jour de ce mois, chaque famille choisira un agneau mâle sans défaut et l'isolera du troupeau jusqu'au 14e jour de ce mois. Et puis l'assemblée tout entière de la communauté d'Israël l'égorgera à la tombée du jour. Ensuite, vous recueillerez le sang des bêtes et vous l'appliquerez sur les montants et le linteau des portes de vos maisons. Le sang vous servira de signe. Quand le Seigneur verra le sang, il passera par-dessus vous et le fléau ne vous atteindra pas quand il frappera la maison d'Égypte.
Vous mangerez la chair de... Vendredi soir prochain commencera la fête de Pessah, une des fêtes les plus attendues, la Pâque juive, qui tombe cette année en même temps que les Pâques chrétiennes. Pour les premiers, la Pâque commémore la libération des Hébreux de l'esclavage d'Égypte. Pour les seconds, les Pâques commémore à la fois la dernière scène instituant l'Eucharistie, la Passion du Christ et sa résurrection. Cette soirée s'inaugure avec un double repas, un rituel très précis en 14 étapes, rituel appelé Seder, pendant lequel est lu et commenté la Haggadah, le récit par excellence, un ensemble de textes bibliques et talmudiques qui font allusion à la sortie d'Égypte sans la raconter vraiment, ni directement, et où par ailleurs, la remarque est importante, le nom de Moïse n'apparaît qu'une seule fois et encore en passant. Toute une culture populaire s'est intéressée à ce récit et à la sortie d'Égypte, des récits écrits, une tradition orale, et le cinéma s'est aussi emparé de ce récit, de cette histoire de la sortie d'Égypte et de la vie de Moïse, depuis la version de Cecil B. DeMille en 1927 jusqu'à Exodus de Ridley Scott de 2014. Moïse a été incarné par les plus grands, Charlton Heston, Burt Lancaster, Ben Kingsley, Christian Bale. Et c'est des films qui soulignent la vocation de Moïse comme chef politique, qui est l'envoyé de Dieu pour libérer les Hébreux de cet esclavage. Et on a des films, pour certains, qui sont des grandes fresques de spectacles d'action. Pour d'autres, les films sont plus intimes, tous évoquant avec plus ou moins de force la Pâque, comme rituel pour les générations, comme nous venons de l'entendre dans l'extrait au début de cette émission. Mais alors, une question importante, que reste-t-il dans tous ces films de l'histoire de Pessah, de ses valeurs, de sa vocation à construire le monde fondé sur la liberté, un monde sans idole, un monde où chacun a une place, une singularité, un droit à l'intelligence et au questionnement, où chacun peut s'assumer comme sujet face à un Dieu qui se révèle précisément en disant « je », Anochi, et dont la carte d'identité, comme disait Léon Ashkenazi, est d'être le dieu de la libération, celui qui fait sortir du pays d'Égypte et de la maison d'esclavage. Est-ce à travers ces films que passe la Pâque en son essence, ses valeurs et son intégrité, comme le dit assez joliment l'annonce du dessin animé « Le prince d'Égypte » qui reprend intégralement l'histoire du texte biblique, ou peut-être est-ce à travers des films qui évoquent ce rituel du Seder ou encore des films qui ni n'évoquent la sortie d'Égypte et l'histoire de Moïse ou qui n'évoquent pas plus le Seder? Et pour répondre à cette question, je vous ai invité Yeshaya d'Alsace. Bonjour.
Bonjour.
Alors je rappelle, c'est un plaisir d'abord de vous retrouver dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes rabbin de la communauté d'Or Vador et que vous êtes un passionné de cinéma, vous avez été metteur en scène, vous avez été élève d'Antoine Vitez au Théâtre National de Chaillot, et dans votre communauté, le cinéma a une place très importante, au point que sur votre site, il y a une rubrique qui s'appelle « Cinéma et judaïsme ». Et voilà, j'aimerais avec vous répondre à ces questions. Et peut-être que pour vous, ce n'est pas a priori ni par le péplum, ni par les films qui parlent du Seder, mais par d'autres films, que cette question à la fois de la liberté, du judaïsme, de la judéité se présente de manière la plus expressive.
Ben oui, alors curieusement, si on veut évoquer cette question qui est vaste, hein, moi, le film qui me parle le plus et qui est, à mon avis, un rapproché de Pessard, on va expliquer pourquoi, mais qui me parle le plus du point de vue juif et de ce qu'est le judaïsme, c'est le dernier film des frères, enfin je ne sais pas si c'est le dernier d'ailleurs, mais le film des frères Cohen, qui est sorti en 2009, A Serious Man. À mon avis, ce film est un chef-d'œuvre remarquable et peut-être le plus grand film juif du cinéma. Je suis prudent parce qu'il y a eu beaucoup de films juifs, bien évidemment. Mais le plus grand, à mon avis, pourquoi ? Parce que ce film pose, à travers une satire sociale, comme les frères Cohen ont l'habitude de nous en montrer, des excellentes, mais pose de vraies problématiques vis-à-vis du judaïsme. C'est-à-dire que ce film, c'est pas seulement un film, c'est un midrash. C'est-à-dire que c'est un film qui est lui-même commentaire, qui est lui-même réflexion. Et ça, c'est rarissime. Parce qu'on pourrait parler beaucoup des juifs au cinéma, de la figure du juif au cinéma, et aussi, évidemment, des histoires autour de la question biblique de Pessard, etc. On pourra peut-être y revenir, mais la véritable question de la pensée juive se trouve, à mon avis, posé magnifiquement dans ce film, avec beaucoup d'ironie, mais aussi beaucoup de profondeur. Et à mon avis, ce film est en rapport avec Pessard de façon incongrue. Parce que dans ce film, il n'y a jamais de scène de Pessard. Il y a une scène d'enterrement, enfin d'hommage à quelqu'un qui est mort. Il y a une scène extraordinaire de bar mitzvah, alors là, vraiment fantastique, où le bar mitzvah va fumer un joint dans les toilettes avant pour se mettre en forme, avant de lire la Torah. C'est assez scène vraiment d'anthologie. Donc il y a des scènes de repas familiaux, mais il n'y a pas de scène de Seder de Pessard du tout, et ça ne parle pas du tout de la sortie d'Égypte.
Alors quelle est l'intrigue, pour qu'on puisse suivre votre enthousiasme pour ce film juif par excellence?
Alors justement, ce qui est intéressant avec les frères Cohen, c'est qu'ils ne se sont pas beaucoup expliqués sur leur scénario, et d'après ce que j'ai cru voir dans les critiques, etc., finalement, peu de monde a compris ce film, et le public des frères Cohen qui existe, parce qu'ils ont leurs fans, a été très déçu, complètement désarçonné en fait. Et je crois, il faut le dire quand même, les choses comme elles sont, c'est qu'être juif, ça aide à comprendre ce film. Je crois que c'est clair que quelqu'un qui n'a pas de culture juive solide a du mal à saisir plein d'allusions. Mais le scénario est un scénario apparemment complètement banal. C'est la crise dans un couple, chez un professeur de mathématiques, de physique, dans une université moyenne américaine. Ça se passe dans le Middle West. Et dans les années 60-70, tout début des années 70. Et il est question d'éventuellement de divorce dans ce couple, qui a deux enfants, donc une petite famille banale. Et puis voilà, c'est tout. Ils vont se réconcilier au moment de la bar mitzvah de leur fils. Mais il faut dire aussi que l'amant est mort entre-temps, ça aide à se réconcilier. Mais l'amant de la femme. Bon, ça, c'est le scénario qui n'a a priori aucun intérêt. Mais autour de ce scénario, le personnage principal, qui est ce professeur de mathématiques, Larry Gopnik, se pose des questions. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Alors, c'est un homme tranquille, c'est un homme pour qui tout va bien, tout est comme une équation de mathématiques sur le tableau noir face à ses étudiants, et puis d'un coup, catastrophe, sa femme veut le quitter, ses enfants partent un peu en vrille, son frère se met à déconner complètement parce qu'il est fou, enfin son frère veut trouver la formule mathématique qui explique le monde entier, et on a une espèce de cataclysme qui arrive sur la vie de ce simple homme, de ce serious man, et c'est fantastique comme façon d'exposer une problématique fondamentale qui est liée à Pessard. Et là, je dois expliquer, c'est que, dans le fond, ce professeur se pose la question, à un moment, de savoir, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est la cause de tout ça? Et tout le film, il cherche la réponse, il ne la trouve jamais. Mais il cherche la réponse. Et il se pose des questions. Et là, y a derrière ça, dans ce film, il y a la problématique de savoir si ou non, il y a ce qu'on appelle en hébreu de la hashgacha, c'est-à-dire de la providence. Est-ce que ce qui nous arrive est écrit ou mérité ou pas? Est-ce que ça a un sens ou pas? Et c'est le problématique, c'est la problématique fondamentale du judaïsme. Et c'est aussi la problématique de Pessah, parce que c'est de savoir si, effectivement, Dieu intervient pour nous libérer ou pas, ou non. Et où nous sommes livrés à l'arbitraire de Pharaon. Et dans ce film, le professeur en question, et le film démarre par cela, enfin démarre par une scène dont il faudra reparler après, mais la première scène qui se passe dans le Middle West, ça démarre avec la pose de l'équation d'une question mathématique classique, qui est le paradoxe de Schrödinger.
Enfin, question de physique.
Question de physique, oui. De physique quantique. C'est en fait le chat de Schrödinger dit que Schrödinger a posé un cas théorique à travers l'image d'un chat. Mais ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de chat. Mais l'idée, c'est qu'en physique quantique, on ne sait pas les conséquences direct d'un calcul. On ne peut pas le savoir. Contrairement à la physique normale, si je fais bien mon calcul, je connais la conséquence. Dans le cas du chat de Schrödinger, eh bien, on ne peut pas savoir, en calculant, si les conséquences d'avoir mis un chat dans une boîte, le chat sera mort ou vivant à la sortie de l'expérience. Donc il y a de l'aléatoire. Et tout le film tourne autour de ça. Et la question religieuse fondamentale, est-ce que ou non dans le monde dans lequel nous vivons dans l'aléatoire ou au contraire dans le prédestiné? Et Pessah, c'est la nuit prédestinée, Leil Shmurim, la nuit gardée pour ça. Et en fait, on est en plein dans le sujet.
Dans le Talmud, vous vous souvenez, il y a ce célèbre commandement, cette célèbre mitzvah qui dit que si on rencontre par hasard un nid d'oiseau sur un arbre ou en chemin, il faut renvoyer la mère pour prendre les petits. L'interprétation qui est donnée, c'est le fait que la mère, c'est la cause, les petits, ce sont les conséquences. Et la mitzvah, il y aurait une mitzvah dans le judaïsme, une loi dans le judaïsme, de renvoyer le principe de causalité, c'est-à-dire de pouvoir apprécier le monde dans l'incertitude, ce qui renvoie d'une certaine manière à toute la littérature. J'aime quand Kundera dit le roman, c'est la sagesse de l'incertitude. Et en vous en entendant parler, et je pense que de nombreux auditeurs aussi ont pensé éminemment à Kafka, qui est peut-être le paradigme même de la remise en question d'une raison. Si on reprend le procès, un matin, Joseph K. est arrêté. Pourquoi? Ben comme ça, sans raison. En hébreu, j'ai presque envie de dire lama, pourquoi? Et réponse kacha, comme ça, ou bien lama, pourquoi Kafka? C'est-à-dire Kafka, c'est vraiment le sans raison. Quand un matin il se réveille transformé en un gros cafard, pourquoi? Ben c'est sans raison. Et si on trouvait une raison, on serait plus dans Kafka. J'ai l'impression que ce que font les frères Cohen, c'est vraiment mettre en scène cette manière nouvelle de voir le monde qui fait éclater le principe de causalité et la providence dans l'histoire. D'où toute la question que vous venez posé par rapport à Pessah, effectivement. Alors, s'il n'y a pas de providence, quelle est la place de Dieu dans l'histoire, par exemple, et quel est le sens de Pessah et de cette libération?
Complètement. Pour moi, les frères Cohen ont à mon avis, vraiment eu du génie dans ce film. Et je suis étonné que les critiques soient passées à côté de ça, n'aient vu qu'une satire sociale. Et en fait, je reviens au film, mais qui est complètement dans la veine de Kafka et totalement dans la veine du nid d'oiseau aussi. Il y a d'ailleurs un verset dans le Talmud où on dit qu'est-ce qu'on fait avec un nid d'oiseau qu'on trouverait dans la tête d'un homme. C'est extraordinaire, enfin, un nid d'oiseau dans la tête. Alors, ben, notre professeur de physique quantique dans le Serious Man, il a vraiment le nid dans la tête. Il est vraiment complètement là-dedans. Et en fait, dans ce film, il y a plein de détails qui vont dans ce sens. Par exemple, il y a la télé qui ne marche jamais. Faut toujours corriger l'antenne. On n'arrive pas à capter, comme s'il y avait une espèce de vous voyez, il faut capter les ondes. Il y a un dieu qui va parler. La télé, c'est une espèce de récepteur. Mmh. Le gamin, il prépare sa paracha, c'est Behar Sinai. C'est ça, sa paracha, sur le mont Sinai. Donc, mais il essaie toujours de capter des trucs à la télé qui est toujours brouillé. Il y a un truc aussi où le père de famille, ce mathématicien, et on lui téléphone, on dit « Vous avez pris un abonnement à des disques ». En plus, tous les disques, à l'époque des années 70, avec tous les grands groupes rock qui sortent leurs disques, c'est aussi un clin d'œil à toutes ces années formidables du rock. Et il dit « Mais moi, j'ai pas demandé ça. » En fait, c'est son fils apparemment qui s'est abonné avec une pub, enfin peu importe. Mais il dit « Mais je n'ai rien fait. » Oui, même l'abonnement des disques lui tombe dessus et il comprend pas pourquoi et il doit payer. Et tout le film tourne tout le temps autour de cette problématique. Et lui, toujours à se poser des questions, il n'a jamais trouvé la réponse.
Larry, tu sais, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir les yeux, de voir le monde tel qu'il est. Je veux pas donner de leçons, mais... Larry, il n'est pas toujours facile de déchiffrer ce que Dieu s'évertue à nous dire. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Nous sommes juifs. Nous avons derrière nous une longue tradition qui est là pour nous aider. Lorsqu'un problème se pose à nous, nous pouvons puiser dans les histoires qui nous ont été transmises par d'autres qui ont connu les mêmes difficultés.
Alors là, cet extrait, moi je trouve qu'il résume bien le film. C'est en fait, il parle de ses problèmes... de couple, sa femme qui veut le quitter, il est complètement désarçonné. Et sa sœur lui dit bah, « Écoute, on est juif, va voir les rabbins. Ils vont t'expliquer, il y a bien une raison à tout ça, finalement. » Et finalement, il ne va pas en trouver. Alors, ce film, c'est une lérance.
Il ne va pas trouver de rabbins.
Si, il va trouver des rabbins.
Oui.
C'est ça qui est drôle.
Non,
mais il va pas trouver de réponse.
C'est ça, il va trouver des rabbins, mais qui ne lui donnent pas la réponse.
Et alors, c'est plus complexe, en fait. C'est plus complexe. Et il va aller voir, et le film est découpé carrément en épisodes, avec premier rabbin, deuxième rabbin, et puis enfin Marchak, qui est le troisième rabbin, mais qui est le rabbin en chef, qui est une espèce de, presque de Dieu le Père. Mais dans cette idée qu'a la sœur, c'est lui dire « va chercher à notre tradition ». Et lui, évidemment, ça lui est complètement étranger a priori. Et c'est là où il est aussi... C'est aussi un clin d'œil à Pessard, dans le sens où à Pessard, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va amener des gens qui sont quelquefois complètement étrangers à la tradition, puis à travers un rite, à travers un petit texte, on va essayer de les secouer un peu, de les réveiller à la question. Et alors lui, donc, passe de rabbin à un autre rabbin qui sont franchement catastrophiques. Le premier rabbin, très jeune, incapable de répondre à son problème. Le deuxième, pas du tout bon non plus, bien que plus sympathique et un peu plus expérimenté. Le troisième, alors c'est le plus surprenant. C'est Marchak, une espèce de rabbin quasi légendaire dans la cave de la synagogue, qui vit dans une espèce de saint des saints. Et là, il y a une scène extraordinaire où la secrétaire du rabbin, les secrétaires sont toutes très, très vilaines. Hein. C'est des caricatures, ça donne pas une image du judaïsme très sexy tout ça. Il hein. faut dire les choses, c'est très angoissant même. La musique est ultra angoissante tout au long du film. On a l'impression qu'il va se passer quelque chose d'absolument horrible. Il ne se passe jamais rien, d'ailleurs. Mais ça donne une image très angoissante du judaïsme, très, très hallénienne. On peut aussi parler de Woody Allen. Mais il va voir ce rabbin Marchak qui pense, dans le fond de son bureau, et la secrétaire revient, et le rabbin ne le reçoit pas. Elle dit, le rabbin est occupé, il est en train de réfléchir. Ça, c'est grandiose, et donc il ne peut pas le recevoir. Donc... À travers ça, il y a une forme de réponse quand même, parce que le rabbin sous-entend réfléchit. Alors c'est vrai que lui-même est en train de réfléchir, mais sous-entend, si le rabbin réfléchit, réfléchis à tes propres problèmes. C'est peut-être pas chez le rabbin que tu vas trouver les réponses. Il y a un sous-entendu dans ce style.
Et dans la soirée, dans la soirée du Seder, pour souligner le rapprochement malgré tout, c'est que les enfants vont poser des questions, les parents posent des questions, la Mishnah, le Talmud dit, même si un homme est tout seul, il doit poser des questions, même il doit se poser les questions, pourquoi cette nuit est différente des autres nuits. Et quand on regarde les réponses que donne le récit, la Haggadah qu'on lit le soir de Pessah, on s'aperçoit toujours du décalage entre la question et la réponse, comme si ce texte de la Haggadah venait nous dire, il n'y a pas de réponse définitive définitive à la question. Un petit peu comme cet épisode qu'on voit dans les péplums que nous avons évoqués, et qui renvoie au texte biblique tout simplement, quand la manne tombe du ciel dans le désert, quand il voit ce pain du ciel qui tombe, chacun demande à son voisin « qu'est-ce que c'est ?» et on répond « c'est du qu'est-ce que c'est ?» Le mot « manne » veut dire « qu'est-ce que c'est ?» C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont mangé de la manne, du « qu'est-ce que c'est ?» pendant 40 ans dans le désert.
De la question.
Et c'est donc la question dans le désert de la réponse, on peut dire. C'est la question au cœur du désert de la réponse qui permet la libération. C'est-à-dire qu'entre le temps de l'esclavage et l'arrivée vers la terre promise, il faut un « no response land » pour pouvoir continuer à poser des questions. Et ce film que vous évoquez des frères Cohen met en scène de manière formidable ce judaïsme de la question.
Mais complètement. C'est pour ça que, a priori, c'est incongru ce rapprochement avec Pessard. Mais en fait, il fonctionne. Parce que ce film est une espèce de céder de Pessard qui ne dit pas son nom. Et la scène avec le rabbin, parce que ce rabbin Marchak, une espèce de Dieu le Père dans sa cave, là, dans son sein des saints, eh bien, il y a une double scène. Il y a le père qui n'arrive pas, le père de famille, qui n'arrive pas à le voir, puisque le rabbin est occupé à réfléchir. Mais il y a le fils qui a fait sa bar mitzvah, et lui, dans le scénario, il y a un petit truc important. Le fils écoute de la musique en cours d'hébreu, le cours très ennuyeux, tous les gamins qui baillent aux corneilles à apprendre l'hébreu dans le Middle West. Et puis, le gamin écoute avec les tout premiers Walkman de la musique. Le Walkman est confisqué. Et le jour de sa bar mitzvah, tous les enfants sont reçus par le rabbi dans son espèce de cave, là, de Saint des Saints. Et le gamin y va, très, très impressionné par ce personnage barbu, très vieux, sans âge, et qu'il reçoit dans un espèce, on a presque l'impression d'un laboratoire de fabricants d'or à partir de plomb, enfin c'est à peu près ça, le rabbin en question. Et le rabbin lui sort le Walkman, il lui cite les noms des musiciens du groupe et il dit au gosse « be a good man », soit un homme bon. Et ça c'est génial parce que c'est la réponse d'Hillel au type qui veut se convertir au judaïsme. C'est-à-dire, c'est quoi la Torah ? Le gars lui demande sur un pied, et il lui dit juste, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est-à-dire, sois un homme bon, c'est ça la Torah, le reste est commentaire. Et c'est le message que lui donne le rabbin à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une résumé du judaïsme. Le judaïsme, c'est se poser des questions et c'est ça la réponse. Maintenant, cette réponse soulève d'autres questions, bien évidemment.
La réponse, si on la formule sous forme d'Hillel, le reste est commentaire, mais il lui dit « zil gemor », c'est-à-dire « va et apprends ». C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de réponse immédiate, mais il y a l'engagement dans l'étude, dans la lecture et dans la réflexion. C'est-à-dire que c'est l'étude qui est la réponse à la question, même si l'étude n'amènera pas nécessairement une réponse définitive.
Tout à fait. Et l'autre clin d'œil à Pessard, donc il faut signaler quand même aussi, c'est qu'à la fin du film, parce qu'il y a aussi dans le scénario un autre aspect qui est un étudiant coréen, et je pense qu'il n'est pas coréen pour rien, parce que chez les Asiatiques, toute cette histoire de providence n'existe pas. C'est complètement étranger à leur pensée. Et donc, cet étudiant coréen, il avait besoin absolument d'avoir une note pour pouvoir passer ses examens. Il a une mauvaise note, il n'a rien compris à l'histoire du chat. Il n'a rien compris à cette idée aussi des images pour illustrer une réflexion mathématique. Ce qui est de la Torah. La Torah emploie des images pour parler d'une réflexion plus profonde. Vous voyez. Donc, il y a aussi un rapport à ça. Et donc, le coréen n'y comprend rien. Et il a une mauvaise note. Et il amène de l'argent dans le bureau du prof, qui évidemment n'en veut pas, mais finalement se laisse tenter parce qu'il a des problèmes d'argent avec le divorce de sa femme, etc. Enfin donc, du coup, il se laisse tenter. Donc il introduit, vous voyez, dans l'idée de quelque chose qui serait la note, vous l'avez la note que vous méritez, il introduit ce qu'on appelle en hébreu un shochad, c'est-à-dire une corruption, mais du coup un déterminisme, dans quelque chose qui n'aurait pas dû être. Et coup de téléphone sonne, c'est son médecin qui veut le voir à cause de ses radios, apparemment il y a un problème. Et là, et les gamins au même moment doivent aller se mettre à l'abri parce qu'il y a des tornades. Il y a une tornade formidable qui arrive et le film finit sur cette tornade qui approche. Alors là, ça rappelle la colonne dans le désert, dans les récits de l'Exode, avec cette colonne qui va ouvrir la mer Rouge. Vous voyez, c'est un truc gigantesque, cette présence divine tangible. Mais là, ce n'est qu'une tornade. Et il y a une phrase formidable d'un des gamins qui dit que le vent est si fort qu'il va peut-être arracher le drapeau américain qui flotte. Alors là, je trouve que les frères Cohen ont fait un truc très fort, parce que le drapeau américain, il est omniprésent dans le cinéma américain. Toujours, enfin pas toujours, mais souvent utilisé à des fins un peu nationalistes, rassurantes, etc. Et là, il apparaît, il faut l'arracher, le vent va l'arracher. Alors, si effectivement cette tornade, c'est une espèce de présence divine qui arrive, de providence, elle va arracher le drapeau américain qui représente la nation qui croit en la providence, justement. In God we trust. Et ça, c'est très fort. Vous voyez, c'est une espèce de retournement complet des symboles. Et là, je trouve que là-dessus, même sur ces détails-là, les Cohen sont dans le sujet, complètement.
Alors, sans le savoir, je pense que les Cohen, en faisant le film, ne savaient pas que les Coréens ont introduit, dans le cadre de l'éducation nationale coréenne, l'étude du Talmud. Ils se sont dit, pourquoi il y a tellement de prix Nobel juifs ? Et en réfléchissant à différentes possibilités, ils se sont dit que c'est le Talmud qui amène cette modalité particulière de l'intelligence. Et le Talmud aujourd'hui, vous regarderez les programmes coréens, le Talmud fait partie de ce qu'un petit Coréen apprend. Et je trouve que c'est un bon clin d'œil, tout à fait intéressant.
Il faut peut-être dire deux mots de la scène du début, qui est quand même aussi, si on parle de Seriousman, oui. Cette scène étonnante, qui se passe dans l'Europe de l'Est, dans un shtetl, on ne sait pas où, où il y a un homme qui rentre chez lui, donc ça n'a aucun rapport avec le film, a priori, ça commence comme ça, et un homme rentre chez lui, il dit qu'il a été aidé avec sa charrette par un certain... un rabbin Grotschkover, bon, et sa femme lui dit, mais c'est pas possible, Grotschkover est mort il y a 4 ans. Et elle lui dit, ah, mais je l'ai invité à dîner, justement, pour le remercier. Et là, on frappe à la porte, le gars rentre, et la femme, qui est en train avec un pic à glace, en train de casser de la glace, elle veut dire, tu as des boucs, tu as une espèce de fantôme. Elle lui plante le pic à glace dans le ventre, elle dit, tu vois, tu as des boucs, ça saigne pas, le gars s'éclate de rire, on croit que c'est le diable en personne, et puis tout d'un coup, il se sent pas bien, et puis le sang apparaît, et en fait, il s'en va dans la nuit. Et en fait, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Et on retrouve le thème du chat, et on retrouve ce thème de l'incertitude et du questionnement. Et puis le spectateur est complètement troublé, il dit « qu'est-ce que c'est que ce truc qui n'a rien à voir avec le reste du film ?» Et en fait, on ne sait pas. Et il y a cette phrase au début qui est importante, qui est une phrase d'une citation de Rashi, qui dit « accepte avec simplicité ce qui t'arrive ». C'est-à-dire que finalement, on ne te pose pas trop de questions non plus. Et ce qui est aussi le thème de Pessah. Parce que dans le fond, à Pessah, on pose des questions, mais on accepte ce qui se passe, néanmoins.
Alors, ça me fait penser à ce texte. On a déjà cité beaucoup Kafka ici dans cette émission, mais je pense à un texte de Kafka qui s'appelle « L'examen », où le héros de ce petit texte dit « Je suis domestique, il n'y a pas de travail », donc il va passer du temps au café du coin, et puis il a sa place habituelle de laquelle il peut voir par la fenêtre le château qui est en face. Et puis un jour, je lis le texte parce que je pense que c'est vraiment en dialogue avec ce film des frères Cohen, « Un jour que j'allais à mon cabaret, un client était déjà installé à mon poste d'observation. Je n'osais pas regarder de trop près, et dès le pas de la porte, je m'apprêtais à faire demi-tour et à m'en aller. Mais le client me fit signe de le rejoindre, et il apparut que c'était aussi un domestique que j'avais vu une fois quelque part, sans lui avoir jamais adressé la parole jusqu'à présent. « Pourquoi veux-tu t'en aller ? Assieds-toi et bois, c'est moi qui paie. » Je m'assis donc. Il me posa quelques questions, auxquelles je ne pus pas répondre. Je ne comprenais même pas les questions. Je lui dis donc, tu regrettes peut-être maintenant de m'avoir invité, je vais m'en aller. Et je m'apprêtais à me lever, mais il tendit la main par-dessus la table et me fit rasseoir. Reste, dit-il, ce n'était qu'un examen. Celui qui ne répond pas aux questions est reçu à l'examen.
C'est génial. On ne peut que souhaiter un bon Pessah à ceux qui nous écoutent.
On peut souhaiter un bon Pessah et donc bien montrer comment fonctionne cette soirée où il y a un récit que l'on va lire. Alors, on a signalé au début que la présence de Moïse n'est pas très, très, très prégnante dans ce texte de la Haggadah. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que dès qu'on arrive dans cette partie, donc il y a un plateau du Seder, il y a des éléments sur ce plateau avec des aliments qu'on n'a pas l'habitude de présenter et qui sont là justement pour permettre à l'enfant ou aux adultes de poser des questions, de demander mais qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau et pourquoi cette soirée est différente des autres soirées. Et on rentre dans la partie rituelle de ce Seder, dans une partie qui s'appelle Magid, qui veut dire raconter, et on dit, on prend la matza, le pain azim, on le lève et on dit voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Et là, il y a un commentaire qui est remarquable parce que on se pose la question, mais c'est quoi la misère? Et c'est quoi le pain de misère? Et je crois que les frères Cohen répondent réellement à cette question parce que en hébreu, le mot misère se dit oni. L'echem oni. Mais le mot oni qui veut dire la misère, c'est le mot réponse. La note, c'est la réponse. Il y aurait comme une sorte de misère intellectuelle quand, dans toutes les questions, à toutes les questions, on veut trouver une réponse. Rabban Alsace, merci pour cette leçon talmudique cinématographique sur Serious Man des frères Cohen. Si vous le voulez bien, j'aimerais que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation sur le judaïsme cinéma et pour aborder en fin de compte ces autres films qui parlent de Pessah, ces péplums dont nous avons parlé et les films qui parlent du Seder. Et donc la question qui sera posée sera péplum or not, que je vous propose de méditer jusqu'à la semaine prochaine. Encore merci Yeshaya d'Alsace. C'était Talmudique, une émission préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Bob Broadcast, à la réalisation Dany Journeau. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Pessah et des bonnes fêtes de Pâques. Je vous dis à la semaine prochaine. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bonnes fêtes de Pessah, Chag Sameach.